Écho d'économie.
En RDC, la Banque mondiale souligne en 2025 le poids important de subventions au carburant et les réformes engagées pour les réduire en progressivement. Tension autour de minerais stratégiques. De parlementaires américains et la société civile congolaise dénoncent le manque de transparence et les partenariats controversés. On y revient dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonjour. Parlons d'abord de la deuxième édition de la conférence et concours de qualité de café congolais qui se tient depuis lundi dans la ville de Goma, au nord Kivu. Une cinquantaine de producteurs et exportateurs du café venus du nord et sud Kivu, ainsi que leurs partenaires régionaux et internationaux, y prennent part. Pendant les deux jours, ces acteurs vont débattre sur le thème « La résilience du secteur du café congolais face aux défis sécuritaires et socio-économiques de la région » organisé par la plateforme Congo Agri en partenariat avec African Coffee Connect. L'objectif est d'arriver à promouvoir le café congolais. C'est ce que dit ici Gisla Mupendi Kamondo. Il est le directeur exécutif du Congo Agri.
D'abord, Best of Congo qui s'organise chaque année. C'est une conférence et concours de qualité de café congolais. Ça s'organise souvent à Goma. L'année passée, c'était à Londres. Alors, c'est une conférence qui réunit toutes les coopératives du nord et du sud Kivu pour qu'ils puissent proposer leurs micro-lots qui sont dégustés dans des jurys. Et après, on propose le prix, ce qu'on appelle la vente aux enchères. Mais dans cette année, a un accent très particulier parce que cette conférence s'organise à un moment de conflit et les producteurs vraiment n'avaient pas espoir, surtout que la guerre est arrivée juste au moment du lancement de la campagne agricole. Et du coup, nous avions choisi le thème de cette année comme la résilience du secteur du café face aux conflits sécuritaires, socio-économiques et Best of Congo comme une voie de sauvetage dans une zone profondément troublée. C'était en réalité donner de l'espoir aux producteurs qui, au début de la campagne, ne pensaient même pas présenter sur le marché, même un seul kilo.
Les subventions sur le carburant qui visent à maintenir un prix bas à la pompe représentent une charge budgétaire importante. C'est pourquoi de réformes sont engagées pour les réduire progressivement. C'est ce qu'indique le rapport 2025 de la Banque mondiale reçu ce mardi à Radio Okapi. Selon ces documents, le coût de subvention reste élevé en République démocratique du Congo. Blaise Ndongala Mayanda apporte deux éclaircissements.
Ces rapports de la Banque mondiale rappellent qu'en 2024, par exemple, les subventions directes se sont élevées à environ 305 millions de dollars américains, soit 0,4% du produit intérieur brut, incluant les paiements d'arriérés aux compagnies pétrolières. Selon les estimations des autorités, les manques à gagner fiscales seraient de 86,8 millions de dollars américains par an, soit 0,1% du PIB. La Banque mondiale constate cependant que les processus de fixation des subventions sur les carburants manquent de transparence en raison de la non-publication des discussions du comité de suivi des prix des carburants terrestres. Une feuille de route adoptée en novembre 2023 définit les plans du gouvernement congolais pour réduire les subventions et les arriérés. Parmi les réformes mises en œuvre figurent entre autres l'exclusion des compagnies aériennes internationales et des entreprises minières à l'accès aux prix subventionnés. Le ministère de l'économie nationale fixe les prix du carburant sur proposition du comité de suivi des prix des carburants terrestres.
Les négociations dans le cadre du partenariat minier stratégique entre Kinshasa et Washington continuent de susciter des réactions. Une cinquantaine de parlementaires américains ont dénoncé hier lundi le manque de transparence et de consultation du Congrès dans les négociations menées par les États-Unis et la RDC autour de l'exploitation de minerais critiques dont regorge le sous-sol de la RDC. Les résumés de Poli Muzalia, rendus par Lievin Mbwinga.
Dans une lettre ouverte adressée au président Donald Trump et à son secrétaire d'État, Marco Rubio, 52 élus issus de l'opposition démocrate, dénoncent l'opacité des négociations en cours entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Ces discussions portent sur l'exploitation des minerais critiques du sous-sol congolais, tels que le cobalt, le coltan, le cuivre et le lithium, des ressources essentielles pour les technologies de pointe. Les parlementaires américains exhortent leur gouvernement à garantir un processus transparent et participatif. Ils insistent sur le fait que l'exploitation de ces ressources ne doit pas se faire au détriment des populations congolaises. Ces négociations s'inscrivent dans un contexte plus large, alors que Washington joue également un rôle de médiateur dans les pourparlers de paix entre Kinshasa et Kigali en vue de stabiliser l'est de la RDC en proie à l'insécurité et aux violences du M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda. L'accord stratégique en discussion entre Kinshasa et Washington vise à offrir aux entreprises américaines un meilleur accès aux ressources congolaises en échange d'un soutien en matière de sécurité pour la RDC.
Et puis, membre de l'ONG Ousika de la coalition Congo n'est pas à vendre. Dirk Chaka tire la sonnette d'alarme sur les négociations en cours entre Kinshasa, Washington et Kigali concernant l'exploitation de ressources minières stratégiques telles que le cuivre, le cobalt et le lithium. S'élivrant ce lundi à Radio Okapi, il exige que tout partenariat respecte la législation congolaise garantissant la souveraineté sur les ressources et les développements locaux, le transfert des technologies et la création d'emplois pour le Congolais. Cet activiste de la société civile appelle à ne pas répéter les erreurs du passé, du genre contrat chinois Sicomine, jugé inéquitable et déséquilibré, qui aurait causé de pertes économiques considérables pour la RDC. Dirk Chaka au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
La voix de l'intérêt collectif devrait primer sur l'issue de ces négociations et le gouvernement congolais doit être le premier à s'assurer fondamentalement que les lois congolaises sont respectées, que l'intérêt des Congolais soit respecté, que des chaînes de valeur puissent être développées localement en RDC, que les transferts de compétences et de technologies puissent suivre ces deals et ces investissements et de préserver la souveraineté économique de la RDC sur ces ressources naturelles. Nous pensons que ça, c'est le devoir de tout dirigeant qui aime la RDC et qui est conscient des enjeux sur l'exploitation de ressources stratégiques dont regorge la RDC. Et cela ne devrait pas faire l'objet d'aucune complaisance. Et c'est pour ça que nous l'avons rappelé et nous espérons que cette voix de conscience est une façon de rappeler aux uns aux autres leur devoir. Que de toute façon, si cela n'est pas fait, ils ne prétendront pas n'avoir pas été conseillés ou avisés sur les dérives que cela représente par rapport à la souveraineté nationale, conséquences que cela pourrait entraîner sur l'économie de la RDC en défaveur d'autres économies régionales qui pourraient, elles, en tirer pleinement bénéfice.
Écho d'économie. Notre invité est le professeur Ngoï Joël Chisso, expert de relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Il publie une analyse sur la décision américaine d'appliquer des tarifs différenciés sur le minerai entre la RDC de 15% et le Rwanda de 10%. Il s'entretient avec Alain Hirung.
Professeur Joël Ngoï Chisso, bonjour. L'administration Trump a imposé des droits de douane différenciés de 15% pour la RDC contre 10% pour le Rwanda. Quelle analyse faites-vous de cette décision américaine?
Merci beaucoup, cher journaliste Alain Hirung. Cette décision d'augmenter les tarifs vient impacter sérieusement les deals minéraux pour sécurité. De prime abord, laissez-moi vous dire que l'administration Trump n'a pas médité consciemment la prise de ces décisions pour qu'elles aient une conséquence négative sur la République démocratique du Congo, mais c'est plutôt le manque de coordination de ces deux grands projets qui font que la décision d'augmentation des tarifs ont maintenant des conséquences non intentionnelles sur la République démocratique du Congo.
Quelles pourraient être les conséquences de cette décision de l'administration Trump sur le plan politique?
La première conséquence est qu'il y aura une perte de compétitivité et de tournement commercial parce que les différentiels tarifaires encouragent les circuits parallèles ou informels de transit de minerais congolais via le Rwanda pour bénéficier de tarifs réduits. Et cette situation compromet la capacité de la République démocratique du Congo à capter la valeur ajoutée issue de ses propres ressources. Dans cette même catégorie de conséquences politiques, il y aura désindustrialisation induite, c'est-à-dire que les opérateurs économiques congolais pourraient être découragés d'investir dans la transformation locale, ce qui compromet les efforts de création d'emplois et de diversification économique, mais aussi un peu plus loin dans la région. La troisième conséquence est que cela va fragiliser la coopération régionale parce que la perception d'un traitement préférentiel entre Kigali dans un climat de tension régionale où il y a l'accusation sur le M23 et la violation de la souveraineté congolaise pourrait aggraver des dissensions politiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo au lieu de les résoudre tel que c'est prévu par des deals minerais pour sécurité.
Dans votre analyse, professeur, vous épinglez aussi des conséquences sur la fiscalité congolaise. Pouvez-vous l'expliquer?
Outre ces conséquences négatives sur le plan politique, il y a aussi des conséquences sur le plan de la fiscalité de la République démocratique du Congo elle-même. Et les effets anticipés sur la fiscalité sont la diminution des recettes fiscales directes, parce qu'il y aura baisse des impôts sur les bénéfices des sociétés minières en raison de la réduction de la rentabilité des exportations vers les États-Unis. Il y aura aussi moins de droits d'exportation perçus sur les minerais à destination des États-Unis. Il y aura également la réduction de royalties et de dividendes. Les royalties proportionnelles au volume extrait exporté risquent de diminuer et ensuite les entreprises publiques partenaires des joint ventures telles que la Gécamines pourra percevoir moins de dividendes si le tarif de 15% est effectivement appliqué sur la République démocratique du Congo alors que le Rwanda en paye moins. Il y aura aussi des conséquences sur des répercussions de la fiscalité provinciale, c'est-à-dire que les provinces minières subiront une baisse de leurs revenus miniers partagés, ce qui compromettra le plan de développement local dans ces provinces minières.
Professeur Ngoï Joël Chisso, merci.
Ainsi s'achève votre magazine Éco d'économie d'aujourd'hui. Merci à Jocelyne et à Blaise Dongala. Merci également à Jean-Claude Ossiala.